Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. C'était un Parigot pur jus, fan de Céline, de Victor Hugo et de Rimbaud, mais aussi de rugby et de vélo. On ne devrait jamais quitter Montauban, ainsi parlait Audiard. Pas une discussion avec ses potes Gabin ou Carmé où il n'évoque un Tour de France d'avant-guerre. Pas un livre, pas un entretien où il ne se souvienne du Paname d'antan quand il faisait les 400 coups dans son 14e natal. Aujourd'hui, Maëlys Bessery et Marie Placé vous proposent le portrait de Michel Audiard, 1920-1985, c'est toute une vie de tonton gouailleur.
Si on vous demandait, Michel Audiard, de brosser le portrait de Michel Audiard, vous le feriez de quelle manière ?
Ça, c'est bien difficile.
Vous connaissez,
c'est bien difficile parce que je le fausserais, en fait. J'ai l'impression que je ferais de l'ironie et je fausserais un petit peu le personnage.
Jean-Luc Godard a dit que vous avez déjà écrit votre biographie, justement.
Oui, mais j'ai écrit une biographie farce. C'est tout à fait autre chose. Rien n'est vrai dedans. C'est...
Oui, mais elle est écrite.
Elle est écrite, mais alors elle pourrait être appliquée à n'importe qui. Oh, ben elle est d'abord... C'est assez mal embouché comme style. Je me mets dans un rôle de pâle voyou, ce que je ne suis pas vraiment.
Vraiment.
D'obsédé sexuel, que je ne suis pas non plus. Enfin, j'ai fait une biographie plutôt pour amuser le lecteur qu'autre chose. C'est presque une petite nouvelle plutôt qu'une biographie. Non, on peut pas écrire sur soi, je crois pas. Ou alors, faut des dons.
Alors ça, c'est la grosse plaisanterie. C'est comme s'il avait laissé sa carte de visite, le Montfred. Ah, ce qui peut être banque, c'est pas vrai. Ah, décidément, faut l'encadrer, ce mec. Et voilà.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Pensons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Dansons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine.
Michel Audiard, Titi poétique, Maëlys Bessery, Marie Placé.
On continue à essayer de nous persuader que le cinéma est un art. Pour moi, c'est beaucoup trop collectif pour être un art, le cinéma. C'est un mélange d'art et de business, parce que vous n'êtes pas seul maître à bord. Vous comprenez, un peintre qui fait sa toile, il peut la déchirer, la foutre au calorifère, et si elle ne lui plaît pas. Quand vous êtes sur un film, ça concerne une centaine de personnes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas détruire tout d'un coup la copie d'un film parce qu'il n'est pas bon. Ensuite, moi, demain, j'écris supposons que j'écris un bon dialogue, tout peut arriver, et qu'un acteur me joue mal, ce truc, le dise mal, je suis foutu. Vous comprenez? Et en admettant que l'acteur le dise bien, il est mal dirigé, la mise en scène est médiocre, le film sera jamais un très bon film. On est trop lié aux autres, c'est pas possible.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres.
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Oh, 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 si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur l'horaire.
Aux hommes de l'art.
Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus. Donc c'est la première séance du festival et comme il est de tradition, c'est ici qu'elle se déroule. On nous a dit il faut vivre avec ce virus. Eh ben nous vivons avec le virus et nous faisons le festival Lumière. C'est un grand luxe que nous avons de pouvoir faire cette rétrospective Michel Audiard. Il y a plein de copies restaurées et c'est merveilleux de pouvoir montrer tous ces films noir et blanc. C'est encore plus merveilleux d'avoir le fils de Michel Audiard, et c'est l'un des plus grands cinéastes français. Merci d'accueillir ultra, super, chaleureusement, Jacques Audiard.
Bah écoutez, je suis infiniment touché, bien sûr. Alors, d'abord, je pense effectivement à mon cher père, disparu il y a un petit moment. Ça fait drôle, un centenaire, parce que comment, je me suis aperçu d'une chose. Il est mort à 65 ans. J'en ai 68. Vous voyez le problème ? J'ai le regard sur la montre, là. Alors, ça m'a semblé assez important. C'est vrai, comment la postérité de mon père. J'ai jamais su si je devais l'appeler devant vous Michel, mon père ou papa. Il s'avère que j'ai travaillé un moment avec lui, on se croisait. Alors le matin, on s'embrassait, je leur disais bonjour papa. Et pendant la journée, quand on se croisait devant d'autres, il me tendait la main, il me disait bonjour. Et c'était une sorte de protocole, je m'y perdais un peu. Oui, c'est important, ça me semble important de revoir tous ces films. Qui sont sortis entre, disons, 45 et 60, qui sont assez largement passés sous le boisseau. Ce que vous allez voir, le film que vous allez voir, c'est Le sang à la tête, c'est 1956. Alors déjà, Michel a travaillé déjà avec Jean Gabin. Il est déjà désigné comme le dialoguiste de Jean. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est que c'est la première adaptation qu'il fait de Georges Simenon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
C'est pas mal. Je voudrais qu'on remercie très fort.
Merci infiniment.
Tu te rappelles quand on était comme ces deux-là pour regarder la mer en rêvant de meubles à crédit ? Le bonheur, tu vois, ça se paye content. Tiens, la preuve. Pendant 12 ans, on a fait chambre commune, on a fait rêve à peur. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai tout loupé. Je t'ai oublié en chemin. Alors écoute, maintenant qu'on le connaît, le parcours, on va le refaire tous les deux ensemble. Mais peinard, comme si on allait passer le permis.
Alors écoute, il y a une maison libre derrière Saint-Éloi. 4 pièces, une grande cuisine, une seule chambre de bonne. Ce serait bien pour les vacances, tu pourrais venir tous les soirs. C'est à vendre.
Eh ben, c'est vendu.
On dit toujours que les Vénitiens sont malins, par exemple. C'est pas vrai, c'est des cons, parce qu'ils ont fait la plus belle ville du monde, ils ont 1,5 million de touristes par an, ils sont plus chez eux, ils peuvent pas vivre, ces gens-là. C'est pareil à Rome, c'est pareil à Tolède, c'est pareil partout. Dans le 14e, on est chez nous. Personne ne nous emmerde. Bon, alors, le bel encrier que vous voyez là s'appelle le lion de Belfort. Je crois qu'il est assez symptomatique de l'esprit du paysan du 14e. Il est très laid, comme vous pouvez voir, et ça fait partie de notre malice. C'est pour éloigner le touriste. Je l'ai connu verdâtre, couleur bronze. Maintenant, on l'a peint en marron. C'est encore plus à chier qu'avant. On a plusieurs petits trésors comme ça.
Marc Le Monnier, on est vraiment dans le 14e d'Audiard, là. On est devant l'avenue René Coty.
On est avenue René Coty, qui, est, pendant la jeunesse d'Audiard, il y a assez tard, jusqu'aux années 60, s'est appelé avenue du Parc Montsouris, puisque c'est une avenue qui part du Parc Montsouris. Là, on est devant le 27 bis, où il a habité, mais alors très, très, très longtemps, puisque dès sa naissance, quelques semaines après sa naissance, sa mère l'a confié à un membre de sa famille qui s'appelait Léopold, qui habitait ici avec sa femme, qui travaillait au PTT, je pense, une poste. Bâtiment haussmannien et des petits balcons, enfin quelque chose d'assez classe moyenne. Il n'y a pas de plaque, alors que juste à côté, il y a un immeuble avec la plaque évoquant un peintre obscur, oui, effectivement, il faut bien dire ça, alors que là, ça mériterait peut-être une petite plaque. Ici, vécu Michel Audiard, écrivain et dialoguiste, et réalisateur. Il fréquentait une école qui était voisine, qui était rue du Moulin Vert. Bon, il a eu son certificat d'études, mais il a un peu bifurqué en faisant une espèce de, on dirait, de CAP par la suite. C'était un élève qui avait une caractéristique par rapport à ses camarades, c'est que comme il ne vivait pas sous la pression de ses parents, mais d'un couple qui était plutôt bien vieillant avec son égard, il pouvait sortir quand il voulait. Donc il a souvent raconté que ce qu'il a appris de la vie, il l'a appris en faisant non pas l'école buissonnière, mais en se promenant beaucoup après l'école dans le quartier, un quartier qui va du parc Montsouris jusqu'au Lion de Belfort. Enfin, c'est un quartier périphérique de Paris qui était encore très populaire qui était assez tranquille surtout. Audiard est né en 1920, c'est-à-dire que il y avait des métros, il y avait des bus, c'était quand même pas tout à fait le Moyen-Âge, mais il y avait une culture du quartier qui était liée au moyen de s'en déplacer et de s'en extraire.
Tout de suite après, j'ai fait de la bicyclette dans Paris en portant des journaux, mais le moins longtemps possible. Dès que j'ai eu la possibilité de caser une nouvelle dans un canard, j'ai arrêté de pédaler pour écrire, ce qui est tout de même beaucoup moins éreintant. Hein. Le métier d'intellectuel est quand même plus reposant que celui de cycliste.
Dites-moi, est-ce que vous êtes des grands lecteurs en dehors des journaux que vous pouvez porter?
Ah ben c'est à peu près les seuls qu'on lit pas.
Vous voyez les bandes dessinées,
ouais,
les bandes
dessinées avant de s'endormir le soir.
C'est toujours qu'on se donne un peu le moral.
Et en rentrant chez vous, un bouquin de temps en temps, ça vous fait mal? Qu'est-ce que vous lisez?
L'histoire, les grandes aventures, l'histoire, mais pas le romancé, le réel.
Le réel,
ouais.
Sur la guerre de
39-40, si on avait aimé ça, on aurait été l'affaire.
Ah bon?
Si, moi.
Nous, on a interviewé Michel Audiard, vous savez qu'il était cycliste avant vous. Et Audiard, à l'époque où il était porteur de journaux, il a découvert Céline et il a trouvé ça formidable. Vous l'avez lu?
Moi j'ai lu Céline avant la guerre, moi.
Ah bon?
Ouais.
Ça vous a plu?
Ouais, j'avais attaqué avec un bouquin que j'avais trouvé sur les quais Bagatelle pour un massacre.
Ah bah vous avez attaqué le plus dur, vous.
Ouais, j'étais bien tombé, ça m'avait vachement bien plu.
Hein. Il a toujours beaucoup lu. C'était un frénétique de lecture et tout. C'est-à-dire qu'il a toujours dit qu'il lisait aussi bien Paul Féval ou Les Fantômas que Proust, qu'il a lu à un âge où personne ne l'ouvre aujourd'hui. Quoi. Donc c'était quelqu'un qui s'est, un autodidacte pur et simple, qui s'est comme ça nourri de littérature et de bicyclette.
J'ai rencontré Michel Audiard en 1900, l'hiver 38-39 au Vel'Div.
André Pousse, acteur.
J'en ai pas si professionnel, j'étais en première catégorie sur la route et sur la piste. Je descends de vélo pour aller aux douches, et un petit lascar qui descend de vélo à côté de moi, qui me fait « Ah dis donc, tu marches toi en ce moment, je t'ai vu dimanche dans le match à l'UM, qu'est-ce que tu leur as mis dans la gueule hein ?» Alors je le regarde, ça fait plaisir les compliments, d'autant plus quand on est jeune. Alors j'ai dit « Je te remercie », je lui ai dit, puis je le regarde, puis je vois, on a l'habitude, hein, tout de suite je vois. J'étais en 4, toi, quatrième catégorie, c'est-à-dire dans les débutants, quand on gagne de course. Quoi. Ouais, ouais. Je lui dis, mais tu fais pas de la piste, tu fais de la route aussi. Alors j'ai abandonné la route. Et là, j'ai eu la première réplique de Michel Audiard. J'ai dit, pourquoi t'as abandonné la route? Mais parce que je montais pas les côtes. Alors ça m'a fait rire. Et ça m'est resté. On est devenus copains. Et puis il est devenu porteur de journaux. On s'est perdu de vue. Et puis il a commencé à écrire, à bricoler, dans plusieurs journaux d'ailleurs. Et puis après il a fait la carrière que l'on connaît. On s'est retrouvés, on s'est plus quittés quoi.
Stéphane Germain.
C'était donc quelqu'un issu du Paris populaire, très pauvre, du 14e arrondissement, et qui, quand il était apprenti chez Musard, je crois, un opticien, lisait dans les toilettes Proust, et c'était quelqu'un qui avait à peu près tout lu. Alors, il se vante d'avoir généré chez Gibert une démarque inconnue monstrueuse, c'est-à-dire qu'en fait, il en a beaucoup volé, des livres, mais il a lu énormément, tout en essayant d'apparaître toujours comme un titi parisien, obsédé par le tiercé et le cyclisme, ce qui n'était qu'en partie.
Il y a deux biographies chez Michel Audiard. Il y a une biographie du réel et une biographie de la réécriture.
Marc Lemonnier.
Dans la version officielle de son histoire, il a commencé à écrire à la fin de la guerre en travaillant pour la presse écrite, en particulier des revues de cinéma. Et une histoire un peu fantasmée, c'est-à-dire le type qui est sur le zinc, comme ça, qui livre ses journaux, qui raconte des histoires, et puis un journaliste lui dit, au lieu de raconter tes histoires, tu ferais mieux de les écrire. Ça arrive sans doute, hein. Ça arrive surtout, mais c'est pas tout à fait ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il lui est arrivé sans doute la même chose, mais 3 ou 4 ans plus tôt. Et les premières personnes pour qui il a écrit, ça n'était pas des articles sur le cinéma, ou certains quand même, un ou deux, mais plutôt des contes. Et ces contes, il les a donnés à la presse collaborationniste. C'est-à-dire que ses débuts ne sont pas ceux d'un autodidacte qui est repéré par des journalistes qui le voient traîner dans un bistrot, c'est ceux de quelqu'un qui a connu l'histoire plus traditionnelle, de quelqu'un qui commence à écrire des petits trucs dans un petit journal et puis qui est repéré pour écrire des gros trucs dans un gros journal, etc., etc., et qui, à la Libération, a déjà, d'une part, la pratique de l'écriture et puis, d'autre part, des relations. Tout ça a été étayé, en particulier d'abord par un historien qui est Pascal Horry, qui a beaucoup écrit sur les collaborationnistes, sur la collaboration en règle générale et sur la collaboration littéraire en particulier. Et il avait mis Audiard dans un coin de ses livres, sans creuser davantage, mais sans insister davantage. Et puis, il y a 2-3 ans, une revue, un MOOC, une revue un peu épaisse consacrée au polar, qui s'appelle Temps Noir, qui remonte à la source, hein, qui a fait ce qu'on aurait dû faire. Quand je dis nous, c'est nous tous qui avons écrit sur Audiard. Mais donc la revue Temps Noir a ressorti tous les journaux dans lesquels il a collaboré. Ce sont des petits journaux, ça n'est pas la grande presse collaborationniste, c'était des petits journaux à dominante culturelle, dans lesquels il a donné des comptes. Ça n'est pas de la collaboration frontale, ça n'est pas Céline. Mais ce sont des choses qu'il a occultées. Alors que c'était assez mineur. Il a été convoqué 2 fois par la police en 1946, parce qu'on a découvert dans les archives d'une association qui s'appelait Collaboration, une carte à son nom. Et là, il a nié farouchement, disant que c'était pas lui, que c'est quelqu'un qui avait rempli la carte à sa place. Il n'a jamais été en prison, hein. Entendons-nous bien. Il n'y avait rien de grave. Donc ça aurait pu passer comme une lettre à la poste, hein. C'était péché véniel. Mais il l'a caché et il a reconstruit son histoire en oubliant ça.
Oh, chef des teutons! Bande de mange-merde!
Arrête, Albert, tu vas nous faire fusiller!
Et pas de bandeau sur les yeux, je commanderai de peloton moi-même comme le maréchal Ney! Droit au cœur, messieurs!
Si tu crois que c'est le moment de faire le zouave?
Je me demande, madame, ce que les zouaves viennent faire là-dedans! Gardez maître Quentin du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient! Gardez-vous! Envoyez les couleurs! Repos!
À quel moment avez-vous compris que vous étiez fait pour ces phrases de cinéma qui doivent être percutantes, qui doivent toucher bien, et droit et fort?
C'est en écoutant certainement les premiers films de Jacques Prévert. C'est en écoutant du Prévert que je me suis dit, tiens, il y a un langage cinématographique. Ça m'a paru évident tout d'un coup. J'ai dit, on peut faire parler des acteurs au cinéma. Enfin, j'ai une espèce de révélation d'une possibilité. Et je me suis lancé là-dessus. S'il n'y avait pas eu Prévert, j'aurais certainement jamais écrit pour le cinéma.
La rigolade s'organise!
Ce matin, chez le boucher, on disait que les Allemands allaient tout faire sauter avant de partir.
Mais c'est leur droit. Moi, je dis que soldat en fuite a droit à certaines compensations récréatives. Personnellement, je me suis tapé de sévères courettes, je connais la question.
Si tu buvais moi, t'aurais peur comme tout le monde.
Ouais, bah si je buvais moi, je serais un autre homme. Et j'y tiens pas.
Si tu trouves ça intelligent de mourir sous... Je te jure, ça fera bonne impression en ville. Tu sais ce qu'on dira?
Mourir sous, c'est mourir debout et je me fous des racontards. L'histoire jugera, madame. Puis d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je m'arrête moins aujourd'hui. Et vous tout foutre en l'air, ces cons-là!
Pour moi, sa vie intéressante commence en 1946-47 avec ses premiers films pour André Unbel, par exemple. Et ça lui a mis le pied à l'étrier parce que c'était, il avait déjà commencé à écrire des petites séries noires. Et là, pour le coup, il est passé du polar écrit au polar cinématographique sans problème. Donc ça a été assez rapide. Et ça a été trois carrières qui ont débuté quasiment de la même, au même moment. Celle d'André Hunebelle, qui est devenu un cinéaste populaire de première grandeur, avec entre autres les films de KPDP avec Jean Marais, etc. Et puis Fantomas avec De Funès et Jean Marais. Et puis Audiard. Et après, Audiard a eu très rapidement une réputation de bon faiseur. C'est-à-dire de type, il n'y avait pas beaucoup de gens comme lui sur la place de Paris. Il y avait Henri Janson, par exemple, des gens qui savaient faire parler au cinéma. En fait, Prévert, Janson et Audiard se partageaient tout le spectre du cinéma. Prévert écrivait pour le cinéma un peu élitiste, Janson pour le cinéma de j'allais dire moyenne gamme, mais ça veut rien dire, du cinéma de qualité, mais un peu populaire, et puis Audiard, cinéma essentiellement populaire, le film de genre, on va dire.
Comment vous considérez-vous comme un styliste de langue populaire avec une voix, accent
Un styliste, j'essaie de l'être. Oui. De l'être, c'est difficile. C'est très difficile de devenir un styliste parce que je ne suis pas spontanément styliste. Moi, mon ce qui révite pour moi, c'est ce que vous venez de dire, le langage populaire. Oui. Ça, c'est le mien. Ça, je peux parler. Le langage, pas l'argot du tout. D'ailleurs, je déteste l'argot, mais le langage de la rue. Qu'est-ce que vous voulez, je le porte en moi. Bon, j'ai mon 14e arrondissement qui me colle aux godasses quand même. Bon, je sais pas, moi, on me demande rarement où je suis né. Quand je parle, ça, c'est assez évident. Alors, j'ai évidemment ça. Chez moi, ça, c'est spontané. Ça ne demande pas de travail, ça. Mais c'est un mot bête de dire écrire bien, parce que c'est un mot un peu, c'est une expression un peu stupide, mais c'est très difficile d'écrire bien. Et je crois, moi, alors ça vraiment, je le pense, je crois que le style, enfin le soin qu'on apporte à écrire l'écriture, je trouve que c'est la politesse, moi, la plus élémentaire. On doit ça aux lecteurs, si on peut. Alors on a une histoire à raconter ou pas, mais si on en a une, bah, racontons-la bien.
Il y a une musicalité chez Audiard. Moi, pour moi, c'est je l'assimile plus à une poésie rabelaisienne, en prose. Le génie de Michel Audiard, c'est le mélange du niveau de langage.
Et monsieur boit du vin bouché. Non, là, je vous jure, ça dépasse tout. Le clochard, maintenant, voilà que ça donne dans le chien de luxe et dans l'appellation contrôlée.
Moi, ce genre-là, ça me les casse.
Eh ben, moi, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils sont bons, les réformateurs du monde. Le statisticien qui bagnole un placard d'usurier, le shintok qui propage les lances tropicales, et le mange-merde qui prône la gastronomie. Ah, il est mimi, le triumvirat, un beau sujet de pendule. Allez, viens, ma belle, qu'on foute le camp, qu'on voit plus ces affreux.
C'est Blier qui disait que la culture classique d'Audiard transparaissait dans ses dialogues. C'est quelqu'un qui puise dans la littérature pour donner de la consistance à un langage qui donne l'impression par ailleurs d'être populaire. Il l'a souvent dit en reprenant des phrases entières de ses films, il n'y a pas un mot d'argot. Et la construction des phrases n'est jamais irrégulière. C'est-à-dire que ces gens parlent français. Ils parlent un français bizarre, parfois loufoque. Ils font des raccourcis qui deviennent drôles. Mais cette langue, c'est du français, et c'est un français qui est puisé aux meilleures sources de la littérature classique dont Audiard était nourri.
Michel Audiard, vous êtes un alphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières.
Non.
Vous n'avez pas un physique spécial.
Et pas de cheveux, non.
Vous n'avez pas de cheveux. Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste.
Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué.
Ah.
Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'écris depuis 45 ans.
Vous volez systématiquement?
Je vole. Maintenant, je loue. Autrefois, je volais les idées, je les revendais. Maintenant, je les loue. On les utilise le temps d'un film, on me les rend. C'est pour ça que tous mes films se ressemblent.
Tous les acteurs qui ont dit du Audiard ont dit également, sans s'en plaindre, que Audiard leur avait tout pris. C'est-à-dire que Bernard Blier affirme que son élocution à lui, son vocabulaire à lui, a été réutilisé par Audiard pour en faire du texte. Avec Gabin, c'est l'évidence. C'est-à-dire que quand on voit des archives de Lina où Gabin est interviewé, on a l'impression qu'il dit du Audiard. Et alors que c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est Audiard qui dit du Gabin. Mais encore faut-il que Gabin le dise au bon moment. Et peut-être que le Audiard disant du Gabin est meilleur que le Gabin. Donc,
Il lui vole des choses, il lui vole des intonations, il lui vole les coups de gueule aussi. Gabin passait pour avoir le verbe haut quand il était en colère, peut-être des colères feintes, mais il lui prend ça, et puis il lui met les mots que, aussi les mots que Gabin avait envie de dire, quoi.
Je pense, Jean, que tu as trouvé dans les dialogues d'Audiard un langage qui t'allait très bien, enfin que tu parlais naturellement.
Oui, mais tu comprends, c'est pas parce qu'il est là.
Non, mais j'écoute.
Non, mais il a du talent, tu comprends. Le premier film qu'on a fait ensemble, c'est Gaswell.
Gaswell, oui. C'est Grangier qui nous a...
Oui, c'est Grangier. Il y a combien de temps?
Il y a plus de 15 ans, en tout cas.
Ah oui, il y a plus de 15 ans.
Il y a plus de 15 ans.
Oui.
Et à ce moment-là, Jean avait déjà fait, lui, tous ses films un peu importants, et moi, j'étais vraiment un débutant. Enfin, j'avais fait peut-être...
Ah, t'avais fait des films avec une belle?
J'avais fait des petits films policiers, des petites choses comme ça, et j'avais fait qu'un film, pas mal, c'est un film avec Jouvet, mais j'étais vraiment un auteur débutant. Jean, lui, avait déjà tout son palmarès.
J'avais mon palmarès.
Tu avais fait tous tes films de carnet, tout ça. Enfin,
avant la guerre.
Et c'est Grangier qui nous a mis en contact, parce que Grangier était pote avec Jean, le connaissait bien, avait déjà fait, je crois, un film ou deux, il le connaissait. Et moi, j'avais travaillé avec Grangier.
Comment ça s'est accroché? Vous êtes bien accroché tous les deux?
Mais lui, Grangier voulait que je fasse un film avec Gabin. C'était une idée, il m'a toujours dit, ça il a pas besoin de me le dire d'ailleurs, c'est une idée qui m'était vaguement venue tout seul depuis un certain temps, mais tu sais, il faut aller, les vedettes, comme on dit, il faut aborder, il faut une occasion de les rencontrer, enfin, il faut un tas de conjonctures qui sont opportunes.
Tiens, Pierrot, t'as pas un petit coup de Beaujolais par là?
Ben non, tout ça c'est vide.
Oh, quand c'est bon, ça fait pas de mal.
Alors, prends-la bien, une petite clarichette, moi. Bah, dis donc, ça y va, la manœuvre, hein. On est pris de court, mon gars.
Encore un petit morceau, mademoiselle Alice.
Oh non, merci, j'en veux plus, j'ai pas l'habitude de manger comme ça.
Ah, excusez-moi, mais permettez-moi de vous dire que du lièvre comme ça, vous n'en mangerez pas souvent. Parce qu'il faut pas seulement des herbes et des champignons. Il faut aussi l'amitié. Ce qui compte dans la vie, c'est d'abord l'amitié. Pas vrai?
L'amitié. Amitié et le Beaujolais, oui.
Quoi?
Je cause à Jean.
Encore un petit morceau.
Ah non, merci, moi j'attends le fromage maintenant.
Ah, je dois reconnaître que votre mari est un cuisinier hors ligne, madame Ragondin.
Il fait cuire le lièvre une fois par an. Seulement tous les autres jours de l'année, il fait des comparaisons entre son lièvre et ma cuisine. Sauf quand il mange chez Jean. Ah, il fait moins le flambard chez les autres.
Il y a quelque chose d'assez curieux concernant la rencontre avec Gabin. C'est que Gabin a été, lui, pour le coup, indéniablement un héros. Lui, Gabin, il est parti aux États-Unis et au lieu de traîner à Hollywood, il a pris un bateau alors qu'il avait le mal de mer. Il est revenu combattre aux côtés de la 2e DB. Donc c'est un héros, indiscutablement. Il l'a payé cher, puisque quand il est revenu à la Libération, il avait cessé d'être une vedette. Il était remplacé par des freluquets genre Gérard Philippe ou par des beaux gosses genre Jean Marais. Alors que lui, il avait les cheveux grisonnants. Il a perdu sa carrière en étant un héros, d'une certaine manière. Il a eu du mal à réinstaller un nouveau personnage. La concurrence, c'était des gamins. C'était Jean-Claude Pascal, par exemple, pour prendre quelqu'un qu'on a un peu oublié. C'était Gérard Philippe, et puis Jean Marais, et d'autres encore. Et il ne pouvait plus jouer dans cette catégorie-là. Et le personnage qu'il aurait pu jouer n'existait pas encore. Donc lui, il s'est fabriqué peu à peu un personnage différent, qui est celui de l'homme mûr, encore séducteur, qu'il faut pas chercher, quoi. Donc l'archétype, c'est Touchez pas au Grisby, dans lequel il joue un vieux gangster, un peu revenu de tout, mais en même temps, faut pas lui taper sur les pieds parce qu'il est capable de répondre. C'est un personnage qui a de la gueule, quoi, qui parle fort. Et Audiard a apporté les mots pour qu'il parle fort.
Bravo, môme. Ça, c'est du baisseur extrapiste.
Je suis prêt à rouler quand on voudra.
Eh oui, mais malheureusement, pour une fois, c'est moi qui suis pas prêt. J'attends les numéros de série, je les aurai que demain. Bien sûr qu'on peut tourner demain, seulement demain c'est dimanche. Et une imprimerie qui tourne le dimanche peut éveiller des curiosités malsaines. Et dites-vous bien que ces belles images peuvent devenir très vite des billets touristiques pour Poissy, Clairvaux et autres lieux réputés. Pas d'amateurs?
Non.
Bon, nous sommes samedi. Or, nous devons conserver pendant 48 heures nos typons, non seulement à l'abri de toute curiosité, mais de toute convoitise.
Je peux les mettre à la banque, j'ai un coffre.
Tiens, non. Mais les perceurs de Muraille, vous lisez pas les journaux, vous?
Pourquoi pas ici?
Non.
Merci. La confiance règne.
Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Alain se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. As-tu une enveloppe?
Oui, pourquoi?
Alors donne.
Nous allons donc confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT.
J'aurais jamais pensé à ça.
Eh ben voilà. En postant cette lettre avant 4 heures, elle passera le dimanche en sécurité. Et le môme l'aura lundi matin à la première distribution.
Ça, c'est une fameuse idée, les PTT.
Vous êtes sûr qu'on ne risque rien?
Rien. Sauf une grève surprise. Mais alors là, messieurs, faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses.
Il y a deux types d'acteurs chez Audiard. Il y a bien sûr les plus grands qu'on connaît tous et qui se sont épanouis sous sa plume, donc les Ventura, les Gabin, les Blier, et une plume qui s'adaptait à chaque fois systématiquement aux qualités du comédien. Des tirades infernales pour des gens comme Bernard Blier, donc des phrases de 3 km. Et puis il y a des gens comme Ventura pour lesquels il écrit des phrases beaucoup plus courtes parce qu'il sait très bien que Ventura n'aime pas un texte trop long. Donc Audiard fait du sur-mesure. Et puis il y a des talents qui se sont révélés uniquement sous la plume d'Audiard. Il a créé de toutes pièces André Pousse. Voilà, André Pousse n'existe au cinéma qu'avec Michel Audiard. Et c'est aussi un des traits marquants du cinéma d'Audiard, c'est la qualité du texte pour les seconds rôles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent contre deux phrases, et ces deux phrases sont absolument géniales.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Il est parti.
Ah oui, t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Qu'est-ce que t'aimes tout de même, les réunions de copains avec un bon Camerlot, un litre de Beaujolais, et puis qu'on se dessalait un petit peu comme ça?
Ah oui, ah oui.
Oui.
Ah ben tu sais, on en a eu des... Nous, on en
a eu des séances tout de même.
Oh, on en a eu des sévères. Avec lui, le Lino.
Oui.
Le Lino, le Grangier. Alors là, on en a eu des sévères.
Et là, ça part sur le vélo assez facilement,
va-t-il. Oui.
Mais ça doit dévier un petit peu sur les femmes, de temps en temps.
Pas tellement. Oh non.
Pas tellement.
Non,
pas
non,
tellement.
Non. Voilà. La bouffe. Oui. Ah, la bouffe. Parce que dis donc, t'as qu'à... Écoute, t'as qu'à te trouver avec Lino.
Ah, c'est du sérieux.
Ah, avec Lino, c'est du sérieux. Hein. Ça, alors, tu sais, le truc, la tortue.
Blier, c'est sérieux.
Ah, Bernard aussi. Oui. J'ai oublié Bernard. C'est Bernard, sérieux, c'est sérieux.
Et là, vous êtes intransigeant.
Hein?
Là, vous êtes intransigeant sur la bouffe, alors là, vous...
Je lui mange pas beaucoup, lui. Oui.
Non, ah non, tu l'as dit, je bois, je peux pas tout faire.
Il boit, lui. Il mange pas beaucoup.
Oui.
Mais Lino, alors, tu parles d'un quadrille de mâchoire. Il nous rend double six à tous, hein.
Ah oui.
Tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Tu m'approches, il va me buter. Ah, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde, lui.
Monsieur
Desjeunes. Dans les questions, oui, c'est ce que vous avez.
Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin.
Ah, vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet.
Oui, des paupiettes.
Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi.
Hein?
On prendrait bien un petit dessert. Ouais. Donc vous avez une tartelette?
Oui.
Eh bien, tout de suite après le fromage, je voudrais bien volontiers. Puis alors, après, c'est une bricole, ce que vous avez, quoi. Une crème renversée ou une petite glace.
Hein? Oui.
Allez, mon petit, allez.
Comme tout dialoguiste, c'était quelqu'un qui avait les oreilles bien ouvertes et qui savait saisir un mot. C'est d'ailleurs au fond d'un bistrot qu'il avait fait cette remarquable interview de Chiang Kai-shek pour l'Étoile du Soir. Donc un scoop merveilleux, totalement bidonné de A à Z, et puisqu'il n'avait bien sûr jamais mis les pieds en Chine. Et on en revient au mensonge, hein, qui est vraiment un fil rouge dans l'œuvre d'Audiard. C'était un menteur patenté. France Roche disait qu'on n'arrivait pas à lui en vouloir, mais que toute sa vie, il a menti. Comme il avait un train de vie dément, pour combler son manque d'imagination, pour beaucoup de ses scénarios, il faisait appel donc à des auteurs, et certains très célèbres, donc des Jean Vautrin, des Herman, des Jean-Marie Poiré, enfin voilà. Mais quand il s'agissait de payer, par exemple, Jean-Marie Poiré, Michel Audiard lui expliquait que, bien sûr, c'était la production qui allait le régler directement, et puis, on s'apercevait que la production avait déjà payé les émoluments de Jean-Marie Poiré directement à Michel Audiard, mais que, voilà, donc tout ça se réglait généralement en payant, enfin, pour les producteurs, en payant deux fois. Voilà. Mais donc...
L'incorrigible, thème d'amour, première fois.
Juste peut-être un mot sur ce film pour qu'on le lance, c'est oui. Belmondo.
Belmondo dans l'incorrigible, qui est un incorrigible menteur, un incorrigible arnaqueur, et qui, du début à la fin du film, arnaque tout le monde. Et c'est une des meilleures comédies de Michel Audiard, et on retrouve le rapport ambigu que Michel Audiard entretenait avec le mensonge et la vérité.
Moi aussi, j'ai longtemps été seul. J'ai eu une jeunesse atroce dont j'aime mieux pas parler. Un père alcoolique, maman usée par les lessives. Je la revois dans la forêt couverte de givre, ramassant du bois mort. Moi, accroché à ses rayons.
Vous étiez combien chez vous?
Oh, au moins 15.
15?
Et puis alors, des hommes ont commencé à défiler à la maison. Des militaires, surtout. Faut dire que maman était très belle. Vous l'auriez vu sur le grand escalier du vestibule, avec son boa autour du cou, en plume de paon.
Ah, pour ramasser du bois, c'est pratique, ça.
Non, alors écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi je perds le fil.
Monsieur Ralph Bennett?
Non. Ah oui, si.
Il y a monsieur Nbaliba qui vous demande.
Ah!
Nbaliba?
Oui, c'est Brandillon, le fleuriste. Entre nous, on l'appelle Nbaliba.
Et vous, on vous appelle Ralph Bennett?
Voilà.
La place des femmes dans le cinéma d'Audiard est très intéressante. C'est plutôt un cinéma d'hommes. Dans les Tontons Flingueurs, il n'y a que deux rôles féminins et ils ne sont pas très importants. Bon, enfin, tout le monde se souvient de Madame Madeau. D'abord, Audiard avait beaucoup de mal avec les mots d'amour à l'écran. Donc, dans le cinéma des années 50 ou 60, vous aviez des jeunes premières qui arrivaient à la plastique irréprochable, et en général, il y avait toujours une ou plusieurs histoires d'amour qui étaient liées à ce personnage. Et ça, Audiard était très mal à l'aise avec les mots d'amour à l'écran. Et à partir du moment où la plastique de ces comédiennes se dégrade, la plume d'Audiard est plutôt dopée. Donc, toutes les vieilles mégères, toutes les rombières, dès qu'elles perdent en fait ce côté séductrice, les femmes chez Audiard ont un rôle du coup très important. Françoise Rosay est absolument merveilleuse. La vieille acariâtre qui revient régulièrement dans différents films et qui est interprétée par Françoise Rosay a des dialogues du niveau de celui d'un Bernard Blier ou d'un Lino Ventura. Et ce sont des rôles extrêmement marquants dont tout le monde se souvient. Franchement, Françoise Rosay, c'est une des plus grandes diseuses d'Audiard. Et il y a une exception à cette règle entre des dialogues indigents pour des très jolies jeunes femmes et des dialogues formidables pour des vieilles mégères. Il y a une exception à ça, c'est Mireille d'Arc. Mireille d'Arc est devenue une vraie copine, au même titre que la trentaine de copains qu'Audiard avait fréquenté assidûment. Mireille d'Arc, de façon un peu miraculeuse, en fait partie.
Je récapitule, les deux bouteilles garnies, le détendeur et 20 mètres de tuyaux pour 300 tickets. Moyennant quoi, je garantis 3 heures de boulot à 3000 degrés.
Tu récapitules, tu garantis, t'es un peu chouette. Primo, un homme de ma classe n'a jamais eu besoin de 3 heures pour déboucler un coiffiot. Deuxio, vu le monstre auquel je m'attaque, 3000 degrés, c'est à peine tiède. Je ne te cache pas, j'espérais trouver chez toi autre chose que de la quincaille.
T'espérais quoi? Arsène Lupin en 12 volumes, le rayon vert, la baguette magique.
Le nouveau bec à azote ionifié.
C'est peut-être de ça que monsieur veut causer.
Oh merde.
Heureuse de te l'entendre dire. Mais ça, c'est pas l'outil de n'importe qui pour le prix de n'importe quoi. Ça, c'est une brique. Et sans le carburant.
Oh, merde, alors.
Tu Tu te répètes un peu.
Dans le film de Michel Audiard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, vous jouez du revolver, vous êtes même le chef d'un gang. Vous avez aimé ce rôle?
Ah, j'ai adoré. Non, mais j'adore travailler avec Audiard d'abord. Il me fait faire n'importe quoi. Quant à jouer du revolver, j'en joue jamais. Et ceux-là pesaient 56 kilos, je ne sais pas. Ils dataient de 1856, alors c'est à peine si je pouvais les tenir. Alors j'avais mis des boules dans les oreilles pour ne pas entendre le bruit. Je n'aime pas le bruit.
Est-ce que c'est le nouveau souffle de Françoise Rosay?
Vous savez, c'est... À mon âge, on ne parle pas d'avenir, on s'étonne du présent.
Qu'est-ce que vous pensez de Michel Audiard? C'était son premier film de metteur en scène.
Il est épatant. Il est calme. Et ce qu'il dit est toujours spirituel, drôle.
Vous comprenez son argot, car il a une manière de
jamais
parler un peu spéciale.
Rien.
Non, rien.
Absolument rien. Je demande. Et d'ailleurs, en général, tout le monde n'est pas d'accord. Lui, il le sait, je crois qu'il l'invente d'ailleurs. Et enfin, il m'est arrivé de demander dans un film, je crois que c'était La Métamorphose des Cléopâtres justement, il m'est arrivé d'avoir un mot, je ne sais lequel, genre Jéroboam ou autre chose, et je me disais, tiens, c'est du champagne, pourquoi est-ce que je parle champagne? Et alors j'ai demandé à un acteur qui m'a dit, mais non, c'était l'arme, il m'a dit autre chose, j'ai dit, bon, très bien, ah, bon, ben, merci.
C'est un cinéma d'homme, le cinéma d'Audiard est un cinéma macho, hein. Faut dire ce qui est. Il a donné des rôles principaux à des femmes dans ses propres films. Michel Mercier dans Une veuve en or, qui a été un de ses rares premiers rôles en dehors de la série des Angéliques. Il y a aussi Marlène Jobert, qui est l'héroïne de son premier film « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Donc bizarrement, lui, le macho, il a donné, c'est lui qui a donné des rôles principaux à des actrices dans ses films, alors que dans les films dont il est le simple dialoguiste, ça n'a pas été le cas.
Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Oui, bonjour, je souhaiterais parler à Marlène Jobert, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Je voulais vous parler de Michel Audiard.
J'ai gardé un très très beau souvenir de ce tournage qui était une véritable récréation. Vous savez, c'est souvent la personnalité du metteur en scène qui donne le ton à l'ambiance générale sur un plateau. Et Michel, toujours serein et agréable, ben, je le revois encore avec sa clope aux lèvres à la Prévert, des yeux qui devenaient de petites fentes quand il riait, sa casquette vissée sur la tête. Ah, on le sentait jubilé à jouer au metteur en scène. Vous savez, c'est quand même un des dialoguistes les plus célèbres du cinéma français. Chacun se souvient d'une réplique qui l'amuse encore. Mais il a été quelqu'un de très, très, très important. Il en a fait des films, des scénarios et des dialogues. Et c'est toujours aussi percutant et amusant et tellement... Vous savez, sous ces dehors, un peu comme ça, voyou, accent de titi parisien, il dissimulait d'abord beaucoup de pudeur, mais vraiment beaucoup, et puis une culture exceptionnelle. C'était quelqu'un d'assez rare, Michel.
Quel souvenir vous avez de sa direction d'acteur, Marlène Jobert?
Ah, il dirigeait pas. Son principal travail était de choisir ses acteurs. Une fois qu'il les avait choisis, il les laissait faire. Moi, pourquoi j'étais très bien dans ce film? Parce que je sentais qu'il m'appréciait beaucoup. Alors, il me laissait un peu faire. C'est vrai que j'en ai fait un petit peu beaucoup, mais je sentais que c'était jamais trop avec lui, malhomme. Parce qu'il aimait bien ce que je lui proposais.
Quel souvenir vous gardez du tournage, justement, avec Bernard Blier? Il a un rôle totalement surréaliste, comme ça, dans ce film.
Enfin, Françoise Rosay et Bernard Blier, ce fut pour moi un honneur et un bonheur. Hein. Françoise, grande actrice qui avait déjà atteint un âge respectable, me faisait rire avec ses réparties sans complaisance. Un jour, je me souviens, je lui avais confié combien il m'arrivait d'être tyrannisé par le trac et combien je craignais toujours de décevoir, que l'on regrette de m'avoir choisi. Et alors, elle m'avait dit ces deux phrases qui resteront toujours dans ma mémoire. Elle m'avait dit, « Dis-toi bien, ma petite amie, que si on t'a choisi pour un rôle, c'est qu'on n'a vraiment pas trouvé mieux. » Ah, ça m'avait fait rire et ça m'avait remonté le moral.
Je m'appelle Rita. Je suis drôlement bien foutue et vachement intelligente. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez. Les œufs au plat, théière de jardin ou le rythme and blues. Moi, c'est les sous.
Je pense qu'à ça.
À ça et aux hommes. Aux hommes qui ont des sous. Moi, ce qui me plairait, c'est les Bahamas. Je me vois dans une piscine. Je me noierais. Un homme plongerait pour me sauver. La cinquantaine, mais sportif, très texan. J'aurais perdu mon maillot sans m'en apercevoir. Lui serait un roi du pétrole. Il me ramènerait dans ma chambre. Le coup de foudre. Moi, je m'apercevrais de rien puisque je serais évanouie. D'ailleurs, il serait trop tard. J'aimerais bien les Bahamas.
Quels sont ces androgynes hallucinogènes?
C'est un métier, ce que vous faites.
Dialoguiste, c'est pas vraiment un métier. Non, c'est pas tout à fait normal, parce qu'on prend un bouquin. Bon, on change à peu près tout pour commencer, sauf si c'est un bon livre. Et puis alors, on fait parler des gens. En vérité, le métier de dialoguiste, c'est plus un don qu'un métier. Je crois, on est dialoguiste et on ne devient pas. On peut peut-être devenir scénariste en lisant beaucoup et en plagiant beaucoup. Mais dialoguiste, c'est un don. Prenez les vrais dialoguistes, qu'est-ce qu'il y a eu, hein? Il n'y en a pas eu des tonnes.
Pourquoi êtes-vous passé du dialogue à la mise en scène? Parce que, restant dans le dialogue, vous restiez un peu anonyme, alors que mise en scène, c'était déjà la renommée.
Ça doit être une forme de perversité, c'est une autre chose. Non, je suis passé à la mise en scène parce que j'en avais marre de faire uniquement des dialogues, puis je crois que dans la vie, j'ai un certain goût du changement. Alors parfois, j'ai comme ça envie d'écrire une pièce de théâtre, c'est en général une idée qui me passe vite. Mais j'aime bien, alors la mise en scène, je me suis dit au fond, pourquoi pas moi? Et je me suis aperçu que c'était très fatigant et très difficile. Maintenant, j'ai une certaine estime que je n'avais pas autrefois pour les metteurs en scène, parce que je me suis aperçu que c'était assez coton de faire de la mise en scène. D'ailleurs, je ne suis pas un vrai metteur en scène, en ce sens que je n'ai mis en scène que mes petites histoires à moi. En fait, j'ai mis en image du dialogue. Je suis pas un metteur en scène. Hein. John Ford ou Wells, ça, c'est des metteurs en scène.
Alors, vous vous installez sur quelle étagère?
Les auteurs qui veulent tripoter un peu la caméra.
Oui, de toute façon, ils considéraient que le métier de scénariste au cinéma était un métier d'usurpateur et qu'en fait les grands auteurs, les grands romans fournissaient une matière à des grands films et que c'était pas la peine d'aller écrire des scripts originaux. Il avait d'ailleurs pour l'ensemble du métier du cinéma, y compris le métier de dialoguiste, il avait une estime raisonnable, mais disons qu'il plaçait tous les métiers du cinéma très en dessous de la littérature. Audiard a été vraisemblablement toute sa vie un romancier très très frustré, très 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 contrarié, tout en ayant parfaitement conscience de laisser une trace dans l'histoire du cinéma en étant un dialoguiste hors pair et à nul autre pareil. Donc il y avait ce jeu permanent d'Audiard où il débinait le cinéma, il débinait ce qu'il faisait, il disait que j'ai arrêté de boire le jour où je me suis rendu compte que je faisais le même film depuis 10 ans, ce qui était en fait ce que racontaient tous les contempteur d'Audiard, qui l'accusait de refaire le même film à l'infini, donc il se jouait de ça. Donc voilà, il ne se mésestimait pas au point de ne pas voir quel rôle il avait pu jouer dans le cinéma, mais néanmoins, voilà, la littérature restait pour lui l'art supérieur. Lui, sa carrière littéraire, elle se déroule en deux temps. D'abord, il écrit dans les années 50, au moment où il commence à écrire pour le cinéma. Il écrit quelques polars, envergure très, très moyenne. Mais disons qu'il ne devient vraiment auteur que dans les années 70. Et quand il se remet à écrire, après une parenthèse de 20 ans, parce que donc, le cinéma l'a totalement accaparé. Et puis là, il se met à écrire des livres beaucoup plus personnels, des autofictions, avec un thème récurrent qui revient sans arrêt, qui est la Seconde Guerre mondiale, puisque il y a deux traumatismes dans la vie de Michel Audiard. Hein. Il y a bien sûr en 1975 la perte de son fils François, et donc cette mort accidentelle va donner lieu à un grand livre, La nuit, le jour et toutes les autres nuits, et la mort de Mirette à la Libération. Ici dans le livre, on peut lire. Sans s'annoncer ni rien, selon la mode du temps, ils avaient enfoncé la porte numéro 12 et surpris Mirette accroupie dans un tub en pleine ablution. D'après les gens, on l'entendait hurler de la rue, tandis qu'il lui cassait les dents. « À coup de bite !» devrait préciser par la suite le plaisant Palicard. « À coup de crosse, plus vraisemblablement. » Elle était sûrement déjà très abîmée quand l'équipe lui était passée hiérarchiquement sur le ventre, colonel Palicard en premier, le huitième étant un travelot d'une maison à spécialité de la rue de Douai. Il ne devait pas survivre longtemps à cette mutation patriotique. Surpris la nuit suivante avec des copines dans un dépôt d'essence off-limit, il avait été abattu par la military police. Cette nouvelle me procura une joie intense. Théâtre de joutes viriles, la chambre 12 inspira sans doute aussi d'autres jeux. Mirette fut certainement très martyrisée puisqu'elle avait les bras et les jambes brisés lorsqu'ils la tirèrent par les cheveux sur la petite place et l'attachèrent au tronc d'un acacia. C'est là qu'ils la tuèrent. Oh, sans méchanceté. Plutôt, voyez-vous, à la rigolade, comme on dégringole les boîtes de conserve à la foire, à ceci près. Au lieu des boules de son, ils balançaient des pavés. Quand ils l'ont détachée, elle était morte depuis longtemps déjà, au dire des gens. Après l'avoir jetée sur le tas de sable, ils ont pissé dessus, puis s'en sont allés par les rues pavoisées pour, comme on dit, arroser ça.
La mort de Mirette, dans votre livre.
C'est affiché, ça, hein. Mirette, j'ai bien connu Mirette, fille avec qui on allait danser, d'ailleurs, on sortait ensemble et tout. Un jour, la libération. Paf, Mirette morte sur un tas de sable. Vous voyez, quand on a 20 ans, ça vous frappe. Qu'est-ce qu'avait fait Mirette? Elle avait couché avec des Allemands. C'est une prostituée, je vois pas tout de même l'extravagance qu'il y avait. Si dans ce métier-là on fait du racisme, on va nager, enfin, il n'y a pas de limite. Ce sont des événements qui m'ont horriblement choqué. Alors on sortait d'une longue époque de massacre, on était retombé dans une autre époque de massacre. Vous savez que les gars de ma génération n'ont pas eu une jeunesse marrante.
Oui, mais finalement, il y a alors un personnage sur lequel il y a très peu de lignes, et c'est très émouvant quand on lui a, c'est un jeune homme qui meurt sur l'autoroute du Sud dans une voiture jaune contre l'arche d'un pont.
Oui, d'ailleurs, je n'ai pas à le gazer, il s'agit de mon fils, et oui. C'est la seule raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Oui. C'est bien évident. Le reste, il y a un apport romanesque, parce qu'il fallait bien habiller ce récit, sinon c'était insupportable, à la fois pour moi de l'écrire, et pour le lecteur probablement aussi. Donc tout le reste n'est qu'un habillage. La raison fondamentale de ce livre, elle n'est pas ailleurs.
Oui, mais là, quand vous parlez de ce mort qui est votre enfant, vous dites celui-ci, il est indissoluble de ma vie. Parce que
bien
vous
entendu.
Ne dites pas des autres.
Mais bien entendu, il n'y a rien de changé. Parce que quand je dis, quand je me rase, c'est lui que je vois dans la glace. Quand je suis en voiture, je dis, c'est comme s'il était avec moi. C'est bien évident. Voilà que la mort d'un enfant n'est pas une chose dont on se guérit. Ce serait absurde de le penser.
Est-ce qu'on peut s'en guérir par l'écriture, par un livre?
Oh, on croit qu'on exorcisme, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Et vous remarquez que, sorte de revivance, je crois que vous employez ce mot, la revivance de ces disparus ne va pas sans quelques insomnies. Parce que c'est un insomniaque, celui qui raconte tout ça.
Mais bien sûr, parce que il y a une époque de la vie, quand il s'est passé certaines choses, il est certain qu'on dort moins bien. En fait, on a des raisons. Et tout. Alors on met tout ça dans un livre parce qu'on a l'impression, effectivement, que ça va... qu'on va se purger, que ça va... on a écrit le livre et puis on en est au même point, on est dans le même sirop, hein, ça change rien du tout.
Vraiment. D'où cette balade nocturne dans Paris, donc qui dure une nuit, un jour, et puis finalement toutes les autres nuits.
Oui, parce qu'elle durera effectivement probablement beaucoup d'autres nuits.
À partir de 1975, sa vie s'écroule, sa vie est un long appel au secours, et pendant 10 ans, de 75 à 85, qu'est-ce qu'il fait Michel Audiard? En fait, il attend de mourir. Il est absolument désespéré par la mort de son fils. Et les 10 dernières années, c'est juste... il attend de rejoindre son fils au cimetière de Montrouge, et c'est là où on a des livres forts, des films forts, c'est là où on a l'espèce de distillation entre sa culture, sa passion pour Céline, sa vision totalement désespérée de l'existence et son talent de dialoguiste pour mettre dans la bouche de Michel Serrault, Noiret, Adjani, Rampling, bref, un certain nombre de grands comédiens, des choses extrêmement fortes.
C'est un personnage qui est très complexe, qui est bien différent de celui qu'on imagine. C'est un dilettante qui n'arrête pas de travailler. C'est un type qui fait du cinéma populaire alors qu'il est nourri de littérature classique. C'est quelqu'un qui pratique l'ironie alors qu'il a une face très sombre, bon, qui est liée à son deuil principalement, mais qui a construit aussi cette image de dilettante, de rigolo, pour dissimuler le fait que son apparente facilité à aligner les bons mots était peut-être aussi le résultat d'un travail. C'est, il se dissimulait derrière cette image, mais tous les gens de son entourage aussi. Il était entouré de gens qui offraient au public, parce que le public avait envie qu'il soit comme ça, qu'il soit franchouillard, qu'il soit un peu, qu'il soit de gros rigolos, alors qu'ils savaient que c'était des hommes plus complexes que ça, quoi.
Et c'est vrai, Michel, que vous avez été contesté au plan du cinéma. Et j'ai entendu des réflexions, d'ailleurs, ces derniers temps, depuis que La nuit, le jour et toutes les autres nuits, votre roman est sorti. Et c'est-à-dire que maintenant, on vous regarde d'une manière différente. On se dit, mais comment? Il est aussi capable de faire ça?
Oui, Pierre, on lit des fois des papiers assez curieux. Oui. Justement, cette surprise. Tout d'un coup, on dit, ça y est, on me prenait pour un débile. Il y a même un côté légèrement...
Vous faisiez tout pour ça, monsieur, attention.
J'ai un peu provoqué. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai cherché des noises à gauche et à droite. Mais ça, c'est un peu ma nature. Ça, je pense pas en être tout à fait guéri.
Provocateur,
ça.
Un peu.
Un petit peu, oui. J'ai un petit goût de la provo. Tout d'un coup, je cherche des crosses à des gens qui ne me demandent rien.
Toi, Raoul Volfoni, on peut dire que tu en es un.
Un quoi?
Un vrai chef.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on regarde à vous.
Michel Audiard, Titi Poétique, Maïlys Besserie, Marie Placé. Avec Jacques Audiard, Marc Lemonnier, Stéphane Germain et Marlène Jobert. Coordination Christine Bernard. Attachée d'émission Sylvia Favre. Recherche Ina Véronique Jolivet. Prise de son Chantal Nouvelot et Michel Gassic. Mixage Claude Niort.
C'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu.
C'était Toute une vie, Michel Audiard. Un documentaire de Maïlys Besserie réalisé par Marie Placé.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et pour cette première émission de 2021, recevez de la part de toute l'équipe tous nos vœux pour cette nouvelle année. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.